Poor Little Belgium, Pauvre Petite Belgique, une série proposée par Christine Mazuy, avec le soutien du Fonds pour le journalisme en Fédération Wallonie-Bruxelles. Réalisation, Jeanne de Barcy. Août 1914. Dans les villes martyres, les civils sont au cœur du conflit. Sixième épisode, Tamine. Un beau week-end d'août.
En 14, c'est la première fois que les civils sont sur le théâtre des opérations et voient les combats en direct.
On ne quittait pas sa zone, ça n'existait pas, puisqu'on n'avait pas les moyens de locomotion nécessaires pour le faire, à part peut-être quelques grosses familles bourgeoises ou de la noblesse qui pouvaient éventuellement changer de lieu. Mais sinon, non, ce n'était pas pensable.
Jean-Jacques Auquier, historien amateur.
Et qui plus est, c'était encore une population essentiellement agricole. Donc on tenait à sa terre, on tient à rester dans ses biens, on tient à ne pas perdre ses bêtes, etc. etc.
Faut pas oublier non plus que ces gens, souvent à l'époque, leur seul bien, c'était les biens qu'ils avaient dans leur maison. On sait que les troupes sont des chapardeurs en puissance.
Nicolas Évrard.
On a tendance à vouloir garder ses biens. Et puis, où aller aussi, c'est pas toujours évident. À cette époque-là, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de... On n'a pas d'information, on ne sait pas si c'était pire ailleurs, etc.
Emmanuel Saint-Fucien, historien.
Les populations ne bougent pas aussi parce qu'elles ne perçoivent pas l'ampleur des combats qui vont se dérouler sur leur sol.
On est le 21 août au matin. Il est plus ou moins 6 heures du matin lorsque 6 cavaliers allemands débarquent à Tamines. Quand arrive le gros de la troupe, assez directement, les Allemands prennent 50 civils en otage, parlent déjà de les fusiller déjà à ce moment-là. Donc on sent qu'il y a une tension chez les Allemands, on sent qu'ils sont persuadés que la population belge a tiré sur eux, et donc il y a déjà des représailles qui se font sur la population. Assez rapidement, la situation va dégénérer, c'est-à-dire que vous allez avoir donc, des maisons qui vont être mises à feu. Donc on peut considérer que vendredi dans la nuit, samedi dans la journée, etc., le village flambe. Il y a des témoignages de personnes qui se trouvaient à 15 km de là et qui voyaient au loin un rougeoiement, des explosions, les flammes, l'orange, etc. C'est de tracé apocalyptique, en fait.
On a deux exactions de tuerie de famille à Tamines qui sont restées dans les mémoires.
Simon Alexandre, historien, spécialiste du massacre de Tamines.
D'une part, on a le bazar Mombek où la famille va être retenue prisonnière dans la cave alors que les Allemands incendient la maison sans laisser la possibilité aux personnes d'en sortir. L'autre exaction de ce type, c'est au café Aignon, près de la place Saint-Martin, où les Allemands vont fusiller directement et sans sommation une série de civils pour des raisons qui sont encore aujourd'hui totalement inconnues. Donc on est dans l'arbitraire complet. L'essentiel des combats s'est déroulé la nuit du vendredi au samedi. Le samedi après-midi, les Français reculent et donc les Allemands occupent Tamines. Et là, de manière systématique, ils commencent à vider les maisons, à en incendier et à regrouper les civils en deux groupes. Un groupe le plus important va être réuni dans l'église des Alous et l'autre sera concentré à l'école des Frères.
Il faut savoir que ces otages ne sont pas que des hommes. Vous avez des hommes, vous avez des femmes, vous avez des enfants.
Nicolas Évrard, historien, ASBL, centenaire 14-18 en Val-de-Sambre.
Ces gens-là, imaginez-vous la scène, vous êtes entassés dans une église, ces gens paniquent. Qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce qu'on va brûler cette église? Est-ce qu'on va nous passer par les armes? Donc on a vraiment des scènes de panique qui se déroulent à l'intérieur de cette église. Et à juste titre, parce qu'à 19h, il y a un ordre qui va claquer, on entend tous les hommes dehors. J'imagine la scène, on voit ces gens qui ont leurs femmes, leurs enfants, qui doivent sortir de cette église en lâchant un dernier regard derrière eux, en ne sachant pas s'ils vont les revoir, qui sont emmenés dehors. On les met en rang et on les fait traverser une partie de la ville.
Et un groupe d'hommes est conduit de l'église des Alous à la place Saint-Martin, au bord de la Sambre. En début de soirée, le commandant allemand vient devant le groupe de civils taminois.
Simon Alexandre.
Et s'adresse à eux en leur reprochant à nouveau, comme ils l'ont fait tout au long du samedi, d'avoir tiré sur les soldats. Et donc en les accusant d'être des francs-tireurs, et donc d'avoir violé les lois de la guerre. Et Plusieurs représentants, dont des prêtres, réfutent ces accusations, mais le commandant allemand n'entend rien.
Imaginez donc la place qui se situe le long de la Sambre, donc qui est directement attenante à la rivière.
Nicolas Évrard.
Vous avez deux groupes et face à vous, vous avez des pelotons d'exécution sur 5 rangs. Vous avez des soldats qui sont à plat ventre, des soldats accroupis, etc. Donc vous êtes face à une forêt de fusils. Et là, les gens comprennent assez rapidement ce qui va se passer. Ils se disent on est foutus. Et quand retentit un coup de sifflet, qui est le signal pour la première salve de la fusillade, vous avez la plupart des civils qui se jettent immédiatement, instinctivement sur le sol, à tel point d'ailleurs que cette première salve fera très peu de victimes. Mais ces gens-là sont sur le sol et sont tétanisés, restent couchés à plat ventre sur le sol, en se disant « mais on est en train de nous fusiller, c'est pas possible ». Et les Allemands vont, à ce moment-là, les relever. Bon, évidemment, personne ne se relève de soi-même, mais les coups pleuvent, etc. Et donc on se relève en n'ayant plus d'illusions. On sait ce qui va se passer quand a lieu la deuxième salve. Cette deuxième salve, selon certains témoignages, s'accompagne d'une mitrailleuse. Donc, l'objectif est clairement de tuer, l'objectif est de faire un carnage. Pour avoir une idée du temps que ça a duré, on considère qu'il y a une grosseur qui s'est passée entre les premières salves et la fin de la curée. Donc pendant 1 heure, on a passé du temps à tuer sur cette place. Il y a vraiment eu un massacre, une boucherie pendant 1 heure. Par la suite, vous allez avoir des soldats allemands qui vont arriver avec des brassards de la Croix-Rouge.
Une ambulance est arrivée.
Marcel D'Argent, président du centenaire 14-18 en Val-de-Sambre.
Tout le monde croyait être secouru et en réalité, c'était des Allemands qui étaient venus pour les achever.
Mais vont les achever à coups de baïonnette, à coups de crosse de fusil, à coups de bâton, de pelle. C'est de la barbarie sans nom.
C'est totalement en contradiction avec la Convention de Genève et les conventions de La Haye.
Laurence Van Ipperzeel, professeur d'histoire, UCL.
On sait par exemple qu'ici, dans ce cas-ci, les massacres ont été ordonnés. C'est pas spécialement, on pourrait croire que c'est des soldats qui paniquent à gauche, à droite et qui... Non, ici, ça a été organisé. Au total, donc, le massacre de Tamines fera plus de 380 victimes.
La fusillade donc a lieu le samedi soir sur la place Saint-Martin. Pendant ce temps-là, les femmes et les enfants qui ont été séparés sont regroupés principalement à l'école des frères et ne savent pas du tout ce qui s'est passé.
Simon Alexandre, historien.
Ce n'est que le dimanche matin, lorsque les Allemands vont les amener sur la place, qu'elles vont découvrir l'horreur devant leurs yeux et l'étendue du massacre.
Vers midi, il y a une scène qui est restée longtemps révoltante, je crois, pour les habitants de la région. C'est que vous avez des officiers passablement éméchés, même complètement ivres, qui vont installer une table et commencer à manger face à la place, alors qu'il fait une chaleur accablante.
Nicolas Évrard.
Et vous avez les odeurs, vous avez les corps qui commencent à pourrir, vous avez les mouches, des nuées de mouches à très probablement parler, etc.
Ce n'est que quelques heures après, donc en début d'après-midi, qu'ils vont donner l'ordre à plusieurs hommes de creuser une fosse commune et de procéder à l'enterrement des victimes sur la place.
Et voilà, et on enterre les corps, on les mettait de bêche. Il y a un tri à faire de nouveau, parce qu'ils ne sont pas tous morts dans le temps. Il y a des mourants qu'on essaye d'enterrer vifs, que les Allemands ont dit « enterrez-le, voyez bien qu'il va mourir ». Donc il faut faire en sorte de ne pas les enterrer. Donc il y a une espèce de pourparlers qui a lieu, etc. Voilà, ça fait partie des incohérences de la guerre, vraiment. Comment ces gens ont pu faire ça? Comment les gens ont pu presser sur les tentes? Comment les gens ont pu voir des civils se faire tuer, accepter de le faire et vivre avec ça? Enfin...
La majorité des soldats allemands qui étaient à Tamines étaient des soldats mobilisés, donc des pères de famille, bouchers, instituteurs, fonctionnaires. Comment des hommes normaux peuvent se transformer en monstre, en machine à tuer, en quelques semaines, parce que c'est ce qui s'est passé.
Comment la guerre peut changer l'homme à ce point? Voilà, c'est une question qui demeure.